Alors certes, il est vrai, il est absolument 20h16. Oui. Vous êtes bien sûr Radio Galère.
Peu en retard.
88.4. Oui, bah disons que nous avons laissé l'émission précédente se terminer avec un peu de retard, mais bah on va se permettre nous aussi d'avoir un petit peu de retard, un petit peu de décalage, mais c'est juste pour le plaisir des oreilles, Pascal. Monsieur Pascal Gobin.
Eh bien, bonsoir Damien.
Nous sommes le dernier mardi du soir.
Du mois. Nous sommes la dernière émission du soir.
Nous sommes la dernière émission en direct du soir. Et nous sommes le dernier mardi du mois. Oui, c'est vrai que la dernière fois, nous avons fait ça le premier mardi du mois.
Oui, parce qu'il y avait un petit problème sur le dernier mardi du mois précédent.
Voilà, c'était juste une petite nouveauté. On revient un petit peu à nos...
Cela dit, il ne faut pas oublier que les émissions peuvent se retrouver en podcast.
C'est ce qui me semble, tout à fait. Ouais. Aussi bien, oui, voilà, aussi bien sur le site de Radio Galère que sur le, et oui, il faut le dire, le Facebook de Dataplex, voilà, où on se fait le plaisir d'envoyer les émissions. Alors, très cher Pascal, ce soir, donc, vous avez dit que vous faisiez le savant.
Je vais faire un petit peu le savant, le professeur, si personne n'y voit d'inconvénient. Je voudrais, avant de poursuivre les écoutes là, qu'on a commencé depuis 3 séances maintenant, sur ce rapport à la composition musicale initiée par la musique concrète et cette manière un petit peu particulière de composer qui est liée à l'écoute du son. Et je vais juste faire un tout petit peu de théorie et rappeler que Pierre Schaeffer, donc, qu'on nomme généralement comme l'inventeur de la musique concrète...
D'aucuns disent le pape, je ne sais pas si le c'est
pape.
Une métaphore.
C'est plutôt Pierre-Henri qu'on appelle le pape, non? Pierre Schaeffer était quelqu'un peut-être un peu moins médiatique, peut-être, plus austère. Et donc il a publié en 1966 un gros bouquin, très épais, très dense, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Traité des objets musicaux. Et alors ce livre représente en fait la somme des travaux de recherche menés depuis le début des années 50, par toute une équipe. Donc Pierre Schaeffer le signe, en est l'auteur. Mais enfin, on sait très bien que c'est le travail de toute l'équipe de ce qui s'appelait en 1966 le GRM, qui s'appelle toujours le GRM, mais qui s'est appelé auparavant le GMC, le groupe de musique concrète, enfin, qui a plusieurs noms comme ça. Et alors, dans ce livre, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un chapitre qui est consacré au fameux solfège de l'objet sonore. Et donc, question.
Eh oui.
Qu'est-ce qu'un objet sonore ?
Bonne question.
Eh bien, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est un objet sonore, en quelques mots. Alors, on pourrait dire que cet objet sonore, c'est une manière de se représenter, ou c'est la représentation ou la caractérisation du son et d'un événement sonore ou d'un événement sonore entendu. Alors, il ne s'agit pas du son en tant que phénomène acoustique, ni même du son en tant que ce que j'en perçois, mais il s'agit vraiment de construire une représentation du son à l'écoute, quitte à l'écouter plusieurs fois. Et ça, c'est très important, à partir de plusieurs écoutes successives, d'arriver à formuler quelque chose qui permet de caractériser de manière unique, mais en relation avec d'autres sons, ce qu'on avait appelé un objet sonore. Et c'est un petit peu de cette idée que tout part. C'est-à-dire que le son musical, dans cette optique-là, n'est plus quelque chose qui existe a priori, avant de l'entendre, comme pourrait l'être... une note ou un rythme, mais c'est quelque chose, ce son musical, c'est quelque chose que l'on construit dans ce rapport à l'écoute. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est à partir de là que l'écriture musicale, la composition donc, peut se fonder non pas à partir du son lui-même, mais à partir de l'écoute qu'on en a. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'on essaye de développer depuis plusieurs émissions, c'est-à-dire ce rapport au geste, parce qu'au final, le son, il est toujours plus ou moins, même si on l'écoute à travers des haut-parleurs, même si on l'écoute sans la présence du sujet qui fait le son, il est toujours l'émanation d'une action, d'un geste, où au moins il garde la trace de ce qu'il a produit.
Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, il ne s'agit pas seulement, parce que le mot solfège peut être trompeur par rapport à ça.
Solfège, il est trompeur dans la mesure... effectivement, il renverrait à l'écriture des notes, à l'écriture des rythmes sur une partition. Mais si on prend solfège au sens très très large, dans son acceptation la plus large, au sens de manière de caractériser les sons, du coup, on s'y retrouve un peu quand même.
On est donc entre une nomenclature, pardon, mais une nomenclature dans laquelle le geste...
Le geste est important.
Serait central.
Il y a une des dimensions dans ce que définit Schaeffer, une des dimensions de l'objet sonore qui s'appelle la facture gestuelle. Mmh. Voilà. Et donc là, on revient donc à cette manière, ce qu'on essaye de cerner un peu là depuis plusieurs émissions, à savoir finalement comment le geste, le faire, la fabrication intervient dans des modèles, dans des modes de composition liés à la musique concrète, mais pas que. On va voir qu'effectivement, là, au cours des écoutes qu'on va faire aujourd'hui, enfin celles que j'ai préparées, on va pouvoir constater qu'effectivement, les gens qui font de la musique concrète, ceux qui pratiquent la musique concrète, ne sont pas les seuls à y avoir pensé. Et donc, on va déborder un petit peu sur de l'improvisation, puisqu'on écoutera des morceaux de Fred Frith, guitariste bien connu, hein, qui a séjourné à Marseille pendant quelques temps.
Tout à fait.
Et puis aussi des musiques populaires, des musiques de tradition orale, à savoir des chants inuits. Mais j'espère qu'on aura le temps de tout faire, avec compte tenu du fait qu'on a commencé un petit peu en retard.
Oui, de toute façon, alors, c'est pas ça le problème, c'est pas qu'on commence en retard, parce que bon, comme on a prévenu un petit peu nos auditrices, nos auditeurs, c'est qu'on allait un peu déborder. Non, le problème, c'est qu'on est très bavard, Pascal. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on commence en retard.
Alors, on commence et on poursuit donc les écoutes de la semaine dernière.
Exactement.
À savoir, on commence par écouter la suite des morceau de Guy Rebelle.
Vous êtes donc un peu loin du micro, très cher Pascal.
Je suis un peu loin du micro parce que je suis en train de mettre de l'ordre dans mes feuilles.
Alors, est-ce que j'espère que nos auditrices et nos auditeurs entendent le son des feuilles qui sont tournées?
Oui, bah évidemment, on est en plein dans la musique concrète.
Ah, en tout cas, il y a une sorte d'objet sonore là qui est en jeu.
Donc, on écoute la suite donc des 12 variations en 6 modes de jeu de Rebelle, donc un morceau de 1979. Alors, on entend successivement, et on va les enchaîner, on va pas s'arrêter entre chaque, les six variations suivantes, puisqu'on a écouté les six le mois dernier. Donc, on va écouter successivement rotation, progression, développement. Ensuite, jeu d'itération acoustique. Ensuite, voile, déchirure. Ensuite, minéral, animal. Puis, thème d'itération. Et enfin, frôlement 2.
Écoutons. Thank you.
Voilà, on vient d'écouter donc les 12 variations, 6 modes de jeu. Enfin, on n'en a pas écouté 12, on en a écouté 6, puisque nous avions écouté les 6 autres, les 6 premières, il y a 4 semaines. Hein.
Le 2 avril.
Le 2 avril, exactement. Et donc, alors j'aimerais continuer précisément avec la suite. Là, on avait décidé de passer des pièces un peu longues. À la fois les 12 variations, 6 modes de jeu de Kerbel et la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Et donc là, on a passé les 6 premiers morceaux, pareil, puisque c'est aussi en 12 morceaux. C'est pas fait exprès, mais tiens, c'est curieux de le constater là maintenant. Donc les 6 premiers morceaux de la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, puis là on va écouter les 6 morceaux suivants, donc dans l'ordre: Prosopopée 2, Eroica, apostrophe, intermezzo, cadence et strette. Alors juste en guise de rappel pour les auditeurs qui n'étaient peut-être pas présents ou qui n'ont peut-être pas eu la possibilité d'écouter le podcast.
Et à qui néanmoins nous tirerons les oreilles dès que nous les croiserons, évidemment, et avec plaisir en plus.
Alors je rappelle quand même que cette symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry date de 1950, qu'elle était de nombreuses fois diffusée, jouée en concert. Et donc l'idée initiale, la question qu'on peut se poser effectivement, c'était peut-être que les auteurs, les compositeurs avaient l'idée de faire une symphonie de bruits humains peut-être. C'est indiqué ça dans les notices de concert de la pièce. Alors, on allie dans cette pièce-là des sons qui sont des sons concrets, des sons d'action, des pas, des gestes divers, et puis des sons d'instruments joués, notamment du piano préparé. Voilà, et donc c'est la combinaison des deux finalement qui donne cette symphonie pour un homme seul, avec sur chacun des numéros l'exploration d'un petit monde musical différent.
Je parle juste une parenthèse, je reviens au 12. Interrogation, cher Pascal, sur le 12, le fait que le 12 quand même traverse un petit peu l'histoire de la pensée, de l'art.
Depuis les apôtres,
notamment, mais quand même 12, c'est divisé par 3, par 4, par 2, par 1,
oui,
par 6, forcément.
Puis c'est bien équilibré.
Et puis oui, a priori, on a 2 fois 12 heures dans la journée, enfin ce genre de choses, un petit peu 12 saisons, etc. Ce genre de chiffre qui n'est sans doute pas un chiffre qui vient de nulle part et qui rythme nos civilisations depuis quand même quelques siècles. Il y a sans doute quelque chose à voir aussi par rapport à ça, vis-à-vis de ces compositeurs.
Peut-être, oui, pourquoi pas.
Le rythme,
des fois, oui.
Les chiffres,
12 heures.
Je sais pas, j'ai aucune réponse par rapport à ça, mais bon.
Non, mais c'est intéressant de le signaler, comme ça.
Je vais juste soulever ces feuilles, un peu d'objets
alors, voilà.
Pour monter donc, ce petit potard.
J'envahis le studio avec mes feuilles.
Vous l'envahissez avec un tel talent et avec un plaisir à partager.
Écoutons donc la symphonie pour un homme seul, deuxième partie, les 6 numéros de 6 à 12.
Wir haben noch Thank you. Thank you.
J'aime beaucoup le silence à la radio, Pascal. Hein.
Et oui. Henri et Pierre Schaeffer, c'est encore pire Henri et Pierre Schaeffer. Pour paraphraser.
Vous paraphrasez très bien.
Ouais,
bien. C'est une mission savante, ce soir, j'ai l'impression.
Ouais. Ah oui, c'est une mission savante. Mmh. Voilà. Donc, il s'agissait donc de la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henri. Alors, chez moi, maintenant, on va changer un petit peu de style. On va continuer à faire entendre des musiques qui sont fabriquées, inventées, composées à partir du geste instrumental. Alors c'est vrai que par rapport à cette musique concrète, en parallèle, notamment dans les courants de free jazz, se sont développées des pratiques qui sont assez proches, même si elles ne font pas appel au son enregistré, mais qui sont assez proches dans le domaine instrumental de cette manière de fabriquer en faisant. Et donc,
pardon, excuse-moi, oui. Pascal, toujours ce rapport au geste. Enfin, c'est vrai qu'on se répète beaucoup, hein, au fur et à mesure au fil des émissions, pardon, mais oui. Néanmoins, c'est ce qu'il y a de très.
Exactement. C'est-à-dire l'idée de ne pas partir sur une forme ou sur une idée musicale. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est pas partir sur une forme musicale convenue et fixée a priori, mais d'élaborer une manière de faire une composition en la faisant. Un petit peu comme quand on fait une conversation, en fait. C'est pas quelque chose qui est n'importe quoi, donc c'est pas vraiment quelque chose qui s'improvise non plus. Encore une fois, qu'il faudrait un peu essayer de définir le terme d'improvisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui suit un fil, qui suit un sens, et donc qui est construit, qui se construit au fur et à mesure que le discours ou que la composition musicale s'élabore.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement, en fait, notamment dans cette émission. Et je crois que la notion d'attention est vraiment aussi au cœur de ces pratiques, le geste, et notamment, que ce soit des pratiques solistes d'ailleurs, ou justement en duo, en trio, en quatuor, en groupe. Juste, tu évoquais le free jazz. Effectivement, ces pratiques ont lieu au sein des free jazz, puisque c'est vrai que c'est difficile de définir ce que serait un free jazz.
Bien sûr.
S'il faut parler de Fred Frith, puisque c'est de lui dont on va parler et que nous allons
amener avec beaucoup de délicatesse.
Il ne s'agit pas tout à fait de free jazz non plus, et c'est là que c'est intéressant. Non. C'est vrai que là, encore une fois, il y a un rapport à une sorte de taxinomie. Hein. C'est un peu, on est dans le savant, mais en tout cas, une autre façon de désigner, et c'est très difficile de désigner la façon que Fred Frith a de créer sa propre musique.
Bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est effectivement pas resituer Fred Frith dans le free jazz, mais effectivement dire que parallèlement à ces pratiques de musique concrète, à cette réflexion sur le sonore comme base de la construction musicale, effectivement se sont développés des courants qui ont amené, qui ont essaimé, je veux dire, dans les domaines de musique instrumentale, dont Fred Frith, qui ne se relie pas directement au courant de free jazz, mais qui élabore effectivement là, à travers les morceaux, à travers notamment des compositions qui se retrouvent dans un disque que personnellement je trouve magnifique. C'est un disque qui s'appelle Solo. Mmh. Donc ce sont des pièces musicales, alors pour le coup improvisées, mais on reviendra sur le terme d'improvisation encore une fois pour essayer de cerner un petit peu de quoi il s'agit. Mmh. Donc des pièces musicales composées en même temps qu'elles se jouent à partir d'une idée musicale et à partir d'un dispositif instrumental. Et c'est une série d'enregistrements qui a été réalisée entre 1974 et 1988. Donc ce soir, là, je vous propose d'écouter trois pièces, une qui fait à peu près 4 minutes et une qui fait 5 minutes 30. Donc je vous propose d'enchaîner les deux pour rester sous le charme quand même vraiment de ces improvisations, de ces compositions instantanées et magnifiques. Donc on écoute Alienated Industrial Seagulls et Glass with Steel. Extrait de l'album Solo. We'll be right back.
Absolument magnifique.
Magique, ouais.
Vous avez magique, juste oublié de signifier une chose, votre cher Pascal, je vous le
rappelle. Eh bien oui, j'ai oublié de signaler que dans le premier morceau, à savoir les fameuses mouettes industrielles aliénées,
yes.
Il n'y avait pas que de la guitare, donc Fretway s'emploie un magnétophone qui s'appelle un Revox, donc, comme indiqué sur la pochette du disque, un Revox Tape Machine. Le Revox étant... Le modèle grand public des magnétophones de radio Studer qui ont perduré jusqu'à ce qu'on n'ait plus de magnétophones finalement à la radio. Et donc beaucoup de gens étaient équipés de Revox. C'était vraiment le top de la qualité des enregistreurs à bande dans les années 60, fin des années 60, début des années 70.
Oui, on en parlait un peu hors micro et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Le fait que finalement ça a été aussi populaire, entre guillemets.
Populaire, on ne peut pas dire que ce soit populaire, mais c'était pour des gens qui étaient prêts à investir pas mal d'argent dans leur chaîne IFI. Maintenant, un peu moins. On écoute un peu moins la musique dans le salon, plus en streaming. Donc peut-être que les gens sont moins enclins à avoir des systèmes. Enfin, c'est d'autres appareils finalement. Oui. On dépense notre argent autrement. Quoi. Oui. Mais là, effectivement, moi je me souviens l'avoir vu dans des salons IFI de personnes, avoir vu le Revox à bande qui servait à enregistrer des émissions de radio dans lesquelles on entendait par exemple, je ne sais pas quoi, ben pour ce qui concerne la musique classique, des interprétations uniques, des interprétations des concerts comme ça qui restaient un petit peu dans l'histoire, et on classait les bandes sur ces grosses bobines, tu te souviens. Et donc on avait deux types de magnéto en fait, si ça intéresse peut-être cette histoire-là. Donc on avait le 9,5 cm par seconde, 19 cm seconde avec le bouton qui était le magnéto grand public, et puis le 19,38, 38 cm seconde, donc était la vitesse magnéto professionnelle. Voilà. Donc.
Ah bah c'est beau parce que on pourrait aussi faire une émission d'ailleurs là-dessus sur.
Sur le vieux matériel.
Bah, sur le matériel, sur le support. En fait,
ce qui est intéressant avec
le support et le matériel, plutôt l'écoute, voire la production.
Peut-être plutôt faire un stage, parce que c'est vrai que le matériel, ce qui est intéressant, c'est de le voir et de le toucher.
Bien sûr, de pratiquer.
Je peux vous raconter comment fonctionne un Revox, mais le mieux, ce serait qu'on vienne le toucher.
Néanmoins, Pascal, je me répète, tu connais ma proportion à me répéter. Et ça pourrait être intéressant de faire une émission aussi sur la façon dont, je répète, le matériel, effectivement, induit aussi, pas seulement une écoute, mais aussi une production. C'est-à-dire
une production,
tout le jeu, parce que c'est un peu de ce dont on parle aussi depuis. On va s'amuser se servir du matériel pour produire un son inouï.
S'amuser, et puis c'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude. Tu sais que pendant des années, quand au conservatoire, j'ai eu la possibilité de faire entretenir le matériel bande magnétique et console analogique. Je l'ai fait. C'était que les étudiants travaillaient sur une bande magnétique avec ciseaux, scotch, etc. Et c'est vrai que l'attitude n'est pas du tout la même. C'est que quand on travaille sur le son sans aucune représentation visuelle, simplement en écoutant, en essayant de mémoriser ces fragments sonores, où tu as, je sais pas, une vingtaine de bobinots comme ça qui sont répartis dans le studio, tu prends bien soin de les numéroter en disant il y a tel son sur celui-là, il y a tel son sur celui-là. Quand tu fais à un moment donné un montage et que tu décides effectivement que c'est là que tu veux couper, et tu sais très bien que tu ne vas jamais pouvoir revenir en arrière, il n'y a pas de contrôle Z sur un magnétophone. Et donc l'attitude de création, l'attitude d'écoute est, je pense, sensiblement différente que celle qui est induite par le travail sur ordinateur.
Et on pourrait parler, parce que j'ai eu la chance d'entendre parler de ton maître, justement.
Marcel Frémiot.
Oui.
C'était un monteur extraordinaire.
Ce serait intéressant qu'on réfléchisse
à faire une émission, tout à fait.
Et moi, quand je pense à ça, je pense aussi au cinéma et à ce fabuleux film de Pedro Costa dans le cadre de la série d'émissions Cinéastes de notre temps, où des cinéastes filment des cinéastes et où Pedro Costa filme Daniel Huillet et Jean-Marie Straub, les Straub au Frénois sur le quatrième montage de Sicilia. Et voilà, justement, il monte à l'ancienne, ça découpe et ça colle. Bref. Allez, on a débordé un petit peu, jeunes gens, vous avez prévenu, mais on a envie de finir par quelque chose d'assez chouette. Ouais. Oui, faisons-le.
Le cadre des musiques savantes, réfléchies, un peu restreintes. Et là, on tombe effectivement dans des musiques de tradition populaire. Et j'avais envie de vous faire entendre des jeux musicaux des Esquimaux Inuits du nord du Canada. Et donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et vous allez voir, donc, ce sont des pratiques musicales qui ont un rôle social très, très fort, puisque les gens pratiquent ces jeux musicaux qui consistent souvent à imiter des animaux, à se mettre face à face, et à, avec très proche, et à sentir le souffle et l'émission sonore de son alter ego dans le jeu musical. Et donc, tout ça participe de la vie sociale des Inuits. Voilà, donc je vous propose trois morceaux qui sont relativement courts. Il y en a environ pour 5 minutes à entendre les trois. Donc je vais essayer de dire les titres. Ne m'en voulez pas, les gens qui parlent Inuit couramment. Donc on va entendre Katsivaak par Onek, Nyakinak et Kiyarpalik.
Juste avant d'attendre Pascal, ça fait vraiment lien, parce qu'encore une fois, on est sur une gestuelle musicale, là en l'occurrence vocale, et juste pour dire que ça fait voilà, le lien avec une émission qu'on avait consacrée notamment à la voix et aux gestes dans la composition et dans l'interprétation, notamment autour de la voix. Enfin,
ouais,
c'est juste pour dire.
Tout à fait.
N'hésitez pas, on sait que vous êtes des milliards à nous écouter, mais à nous
réécouter et à nous suivre
si vous l'avez envie. On écoute ceci.
Have a day, Have a day, Have a day.
Yeah, honey.
Absolument fabuleux.
Magnifique, oui.
Et c'est vrai qu'on a, ouais, on a quelque chose qui a à voir avec voilà, effectivement, hein, du rythme, l'intensité, le geste et le plaisir. On sent le sourire. On sent le sourire derrière cette, le plaisir derrière cette, ces enregistrements. Ouais. Ça fait du bien. Pour finir une émission, c'est chouette.
C'est chouette, oui, de vraiment retrouver cette, cette notion de jeu dont on parle assez fréquemment là, dans nos commentaires sur les morceaux qu'on fait entendre. C'est vrai que il est vraisemblable que la notion de faire de la musique ne correspond pas tout à fait aux mêmes pratiques que ce qu'on peut avoir bah, ici dans notre mental. Mmh.
Pour simplifier un peu, mais globalement, effectivement, l'idée est celle-là, bien sûr.
Donc l'idée, effectivement, que le morceau de musique n'est pas forcément lié à un début, une fin, mais est à un moment passé ensemble aussi à pratiquer un jeu sonore. Mmh. C'est ça qui est vraiment très, très émouvant.
Et qui se termine souvent, on en parlait aussi, hein, par rapport à tout un tas de labels qui ont pu proposer des arrangements complètement fous de tout un tas d'endroits différents dans le monde, mais même en Europe aussi d'ailleurs, alors, notamment dans le cadre de musique populaire, mais pas seulement, mais notamment, où moi j'ai vraiment le souvenir de plein de morceaux qui se terminent par des sourires ou des éclats de rire.
Exactement.
Qui, voilà, ça marque la fin du morceau.
La fin du morceau.
C'est l'éclat de rire.
Ouais. Ben, on va rire pour marquer la fin de l'émission.
Eh bien, nous marquons, nous aussi rirons. Mais c'est toujours un plaisir, monsieur Pascal.
Mais oui, tout à fait.
Donc de vous accueillir derrière ce micro.
Dans environ un mois.
Nous nous retrouvons a priori, oui, disons le dernier mardi du mois de mai. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est parfait.
Ça, si ça vous convient, c'est parfait.
C'est parfait.
Allez, je fais une petite annonce, si ça ne vous dérange pas, avant de laisser la place, non pas à la Pincule. J'espère qu'on retrouvera la Pincule dans pas longtemps, mais bon, en tout cas, une petite bande sonore de Radio Galère. Voilà, juste pour vous dire que deux petits événements qui vont être très chouettes, trois petits événements d'ailleurs qui vont être très chouettes. Vendredi 3 mai, à l'Embobineuse, à partir de 21h. Voilà, on a un joli collectif qui vient nous embêter. Ça va être chouette. C'est des gens qu'on aime beaucoup recevoir et qui reviennent. Ce sera donc Officine, Descendeur, l'atelier d'éveil musical du Centre Social Raymond Poulidor. Et ça, si c'est pas un blaze vachement chouette, c'est une grosse fanfare. Franchement, venez voir. Descendeur, c'est l'ami Arnaud Bruil qui sera de retour avec nous à Marseille. Et puis donc Officine, ça va être chouette aussi. Le lendemain, deux choses vachement chouettes que vous pouvez enchaîner. À Zoem Ruvian, le retour des enfants prodigues, Jean-Luc Guyonnet et Seijiro Murayama, à partir de 19h30 à Zoem, donc duo, saxophone et batterie, percussion. À Zoem Ruvian, je ne sais plus le numéro de la Ruvian, mais voilà, ce sera donc à partir de 19h30. Et puis juste après, eh bien, une petite soirée de soutien au festival Enfin Seul qui aura lieu comme tous les ans autour de la mi-fin août à Marseille. Voilà, une petite soirée de soutien. Ce sera à la brasserie communale sur le cours Julien, autour de 20h, 20h30. Voilà, ça va durer longtemps, donc n'hésitez pas à faire un petit ZOM, un petit brasserie communale, et votre soirée sera belle. Pascal, encore merci. À bientôt.
À bientôt.